Et pour commencer, ouvrons sur un dossier santé à Mbujimayi. En effet, dans la corporation des infirmiers, il y a des gens qui exercent ce métier sans en avoir l'autorisation. L'Association nationale des infirmiers du Congo, section du Kasaï oriental, va entamer le recensement des infirmiers qui travaillent dans la région du Kasaï oriental. L'initiative est louable, mais n'est pas toujours appréciée par ceux-là que les autres, les vrais infirmiers, qualifient de charlatans. Le comité provincial de la NIC a donné le ton au cours d'une réunion qui a regroupé tous les principaux responsables du Kasaï oriental la semaine dernière. On en parlera avec Julien Nyamouni dans quelques instants. Pour commencer ce magazine Okapi Action, on va parler plutôt de ce qui se passe lorsque il y a un accident d'avion qui survient. Ça sera dans quelques instants.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Il y a 12 ans, des personnes avaient été frappées, fauchées par un avion qui avait raté son décollage. C'était à partir de l'aéroport de Ndolo et beaucoup de gens sont morts. 12 ans après, beaucoup de ces personnes n'ont jamais été dédommagées. Pourtant, ils devraient l'être, selon la loi congolaise. Plusieurs ministres des Transports et Communications ont raconté depuis 12 ans des promesses vis-à-vis de ces victimes, mais encore lorsque on a passé en revue le 12e anniversaire de ce triste événement, c'était encore des promesses non tenues. Et on pouvait voir à l'issue de l'office religieux fait en mémoire de ces victimes, les rescapés pleuraient encore et réclamaient des dédommagements de la part des services publics. Ça n'est jamais arrivé. On aura un avocat, évidemment, qui nous expliquera comment le faire. Mais nous faisons d'abord un premier tour d'horizon avec Nicole Ngaka. Nicole, bonjour.
Bonjour, Alter.
Alors, vous avez revu les enquêtes par rapport à ça. Vous avez donc renoué une enquête à partir de ça. Qu'est-ce que vous avez constaté, notamment, par rapport à la question de la procédure à suivre pour obtenir réparation judiciaire lorsqu'on est rescapé d'un accident d'avion?
Il faut vous dire tout de suite, Walter, que cette question est vraiment difficile à régler en matière judiciaire. Pour qu'une personne soit dédommagée après avoir été victime, par exemple, lors d'un incendie ou d'un accident d'avion, il faut que la victime ait tous les éléments de preuve en sa possession. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que, vous savez, Walter, la procédure judiciaire, elle est longue. Si vous n'avez pas suffisamment de preuves pour prouver que réellement vous devez être dédommagé, vous pouvez facilement perdre le procès.
C'est vrai, malheureusement, pour non-respect des procédures, quand bien même on détient toutes les preuves, tous les éléments de preuve, il y a des gens qui ont perdu des procès, Nicole.
C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des procès et à ce sujet, justement, les magistrats sont au courant. Beaucoup de gens s'imaginent que les magistrats sont au courant de tout puisque c'est eux qui, en fait, déterminent quelle est la partie qui pourra avoir gain de cause. Mais pourvu que toutes les preuves soient réunies pour leur permettre de bien faire leur travail et déterminer qui a raison et qui a tort.
Alors, nous allons peut-être chercher à avoir des vraies réponses précises sur notamment cette question qui suscite beaucoup d'interrogations, avoir le point de vue notamment des magistrats sur la question. Est-ce que vous avez rencontré quelques magistrats pour leur poser des questions, et particulièrement ne fût-ce qu'un magistrat qui a déjà eu à siéger dans un procès dont il y a en cause la compensation en matière de responsabilité civile à la suite d'un accident?
Nous avons abordé cette question avec Madame Ojenga, qui est magistrat, qui à l'époque était à la Cour suprême de la Gombe et qui est maintenant à Matete. J'aimerais que vous suiviez sa réaction à ce sujet.
Bon, vous savez, Madame, je ne veux pas faire l'avocat des magistrats. Je sais que les magistrats ne sont pas des saints, hein. Ils ne sont pas des saints, mais ils ne sont pas des démons non plus, hein. Tous ne sont pas des démons. Et moi, je crois personnellement que quand il y a vraiment une cause qui est soumise devant la justice, le magistrat est tenu quand même d'appliquer la loi. Surtout dans une matière qui s'appelle matière civile, nous l'appelons, c'est une matière des parties. C'est-à-dire, les parties qui viennent au tribunal doivent être à même d'apporter les preuves auprès du magistrat. Pour confirmer les déclarations qu'ils font, S'il y a moyen d'amener des documents à l'appui, des pièces à l'appui, c'est sur base de ces pièces-là, sur base de ces déclarations, que le tribunal va se prononcer. Parce que vous savez, c'est bien beau de dire que non, j'ai été au tribunal, le tribunal ne m'a pas donné gain de cause. Mais il faut maintenant, pour pouvoir juger et comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord prendre le jugement, lire un peu toute la motivation du juge et voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que vous savez, quelqu'un peut perdre un procès tout en ayant raison. Vous savez ça au moins. Vous venez au tribunal, vous ne prouvez pas votre qualité. Même si dans le fond vous avez raison, mais vous serez débouté. Mais tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que, sincèrement parlant, les magistrats qui parviennent à déclarer les coupables innocents et les innocents coupables sont très intelligents, je vous dis. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent motiver. Comment ils parviennent à motiver pour quelqu'un qui était coupable devienne innocent et celui qui était innocent devienne coupable? C'est une gymnastique, en tout cas, qui est vraiment, sincèrement parlant, difficile à faire. Du moins pour ce qui me concerne, moi.
Madame Mujinga, magistrate après la cour d'appel de Matete, Kinshasa. Avant, elle était à la Gombe, évidemment. Donc, on vient d'entendre le point de vue de Madame Mujinga, qui est légitime, mais nous savons aussi que des fois, enfin, certains tribunaux ne sont pas de l'avis des personnes qui fréquentent les cours des tribunaux. Ils estiment que des cours, certains magistrats ne sont pas corrects, mais il faut dire que Madame Mujinga a eu du reste à le reconnaître qu'il arrive qu'il y ait beaucoup de gymnastiques intellectuelles qui se font. C'est son expression. On lui remercie beaucoup pour sa sincérité sur cette question. Je reviens à vous, Nicole. On sait que des fois, lorsqu'une personne n'a pas été satisfaite par le verdict prononcé et rendu par le tribunal, surtout lorsqu'il perd le procès, on cherche parfois d'autres voies de recours pour trouver solution à ce problème. Au cours de votre enquête, est-ce que vous en avez épinglé quelques démarche pour obtenir à tout prix gain de cause?
Oui, tout à fait, Walter. Et je ne sais pas si vous vous rappelez encore qu'il y a eu à un moment donné dans notre pays une structure ministérielle qui avait été mise en place, qu'on a appelée Commission interministérielle des crimes économiques, qui a eu pratiquement à faire, il faut le dire, le travail de la justice. Cette commission a existé, je crois, si je ne me trompe pas, de 1999 à 2000. Si je reviens là-dessus, Walter, c'est qu'on a eu abordé cette question avec un monsieur qui était en fait à l'époque le coordonnateur de cette commission et qui a reconnu du reste qu'ils ont donc été confrontés à des cas de compensation en matière de responsabilité civile. Mmh. Et j'aimerais à ce sujet que vous suiviez un peu l'entretien qu'on a eu avec M. Félix Diritsene.
Parmi les cas particuliers, nous avions résolu beaucoup de cas. Et il y a un cas que je peux illustrer, c'est le cas de Madame Ngolela, une femme qui était escroquée, on dit, je dirais escroquée par la banque. On lui avait donné des faux dollars par la banque. Alors, ces faux dollars, il était maintenant question que nous puissions demander à la banque de lui rembourser son argent. Ça a été fait. Il y a des sociétés d'État, telles que la MIBA, la SONAS, où on a contribué pour que les gens qui leur devaient de l'argent puissent leur payer. Ça aussi, c'était un acquis. Mais il y a là où nous avions eu des problèmes. Il y a eu là où nous avions eu des problèmes.
Mais alors, parmi ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu gain de cause dans leur dossier, est-ce que vous pouvez nous citer ne serait-ce qu'un exemple d'une personne qui a été victime et qui n'a pas été, qui n'a pas eu gain de cause?
Oui, il y avait...
Si c'est pas trop vous demander.
Il y avait... Là où nous devons dénoncer l'immixtion d'abord de certaines autorités qui venaient trafiquer l'influence pour qu'on ne puisse pas arriver à une décision. Le cas très frappant, c'est celui de les dossiers CAA. Les dossiers CAA étaient enregistrés au 246e dossier. Là, c'est une femme qui était hôtesse de l'air, qui a été victime d'un accident, un accident au niveau de Chikapa, je crois. Et là, elle a été licenciée.
Elle a été victime d'un accident. Autrement dit, l'avion dans lequel elle avait pris place en tant qu'hôtesse de l'air
a fait un accident.
Et
elle a été blessée. Elle est battue jusqu'à aujourd'hui. Mais cette femme, au lieu que on puisse la dédommager, on a résilié son contrat. 100 000 indemnisés. Elle est venue à la commission. Nous avons trouvé que c'était vraiment cruel. Nous avions chargé un groupe d'experts pour s'occuper de ces cas. Ils ont pris contact avec la SONAS. Ils ont été en contact avec la direction de la volonté civile pour se rassurer si réellement les membres d'équipage peuvent ne pas être assurés, puisque selon la société, il n'y a que les passagers qui pouvaient être dédommagés, pas les membres d'équipage. Partout, on nous a dit non, non.
Donc, il n'y a pas eu compensation en matière de responsabilité civile pour, je dirais, l'hôtesse de l'air, donc pour la dame et peut-être aussi pour les autres membres de l'équipage.
Non, jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache, non.
Et voilà, on vient d'entendre des explications qui hérissent les cheveux sur le cuir chevelu, comme on dirait. Voilà, une situation assez terrible. Il parle des cas précis, des personnes qui ont eu à être dédommagées, d'autres non. Pour celles qui n'ont pas eu bonne cause, nous n'avons pas entendu, par exemple, une dame qui aurait été laissée pour compte alors qu'elle a été victime lors d'un accident d'avion d'une compagnie privée pendant qu'elle était hôtesse de l'air, Nicole. C'est ce qu'on a bien compris, beaucoup de situations précises.
Tout à fait. Monsieur Félix Biritsene, qui en fait était le coordonnateur, je rappelle, de cette commission, a reconnu, vous l'avez suivi, que tous les cas qu'ils ont eu à régler à l'époque n'ont pas toujours été résolus, mais certains du moins ont été dédommagés et d'autres non.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la procédure judiciaire à suivre pour une personne qui doit avoir obtenu compensation en matière de responsabilité civile. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer peut-être une personne confrontée à ce genre de situation pour savoir quelle procédure ou quelle démarche judiciaire elle a entamée pour porter le dossier au niveau des cours et tribunaux?
Oui, on a insisté énormément auprès du coordonnateur de cette commission qui aujourd'hui travaille au ministère des Transports. Auprès du coordonnateur, M. Félix Biritsene. On a vraiment insisté et finalement, il nous a donné les coordonnées de cette dame, cette dame qui avait en fait perdu le procès à l'époque.
Nicole, merci.
Merci à vous,
Alter. Bon, en attendant, nous disions tout à l'heure, en ouverture d'émission, que nous avons pour habitude dans ce magazine, au Capi Action, de lancer des appels au SOS en faveur de certaines personnes qui ont du mal à se prendre en charge, notamment en ce qui concerne les frais de soins de santé. Le dernier en date, il y avait le cas de Eugénie, une jeune fille de 13 ans. Elle souffre d'insuffisance rénale. La raison de cet appel, c'était que les cliniques universitaires de Kinshasa n'ont pas de dialyse pour soigner les malades. Une réponse pour Eugénie et d'autres malades a été proposée d'outre-mer. De quoi s'agit-il? Je vous propose d'écouter Monsieur Van Gogh.
En fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie. Et parfois, il faut simplement détecter, faire un dépistage précoce pour s'en rendre compte. Et nous, notre but, c'est que les personnes n'arrivent pas à un stade avancé. C'est cela que nous voulons faire à Kinshasa. Et les gens qui ont de moyens viennent ici en Europe. Mais pourquoi ne pas installer à Kinshasa avec des prix qui sont adaptés à la vie courante, quoi. C'est ça en fait le but.
Oui, alors Monsieur Van Gogh, qu'est-ce que vous avez exactement? Quelle quantité? Est-ce que vous avez exactement?
En tout cas, nous, en fait, le fondateur de cette association, c'était un cas spécial de CHI, donc Clinique Universitaire de Liège. Et voilà, c'est cet hôpital qui lui a donné, parce qu'il a présenté son projet, alors on lui a donné du matériel, c'est-à-dire des appareils de dialyse, des entrants et puis des médicaments. On est en contact avec la société Bactère. Bon, c'est question maintenant de nous implanter en Kinshasa, parce qu'on ne sait pas prendre tout le matériel ici, le caser ou je sais pas moi, et quelque part dans des caves. et ça servira à rien. Il faut que le projet soit d'abord en route, parce que le matériel, on a déjà. Mais tout ce qui est médicaments, et la société Baxter nous a déjà rassuré, on a des lettres. Donc, dès que le projet démarre, nous, on est là, quoi, on est prêt à tout faire. Dans un mois, dans deux mois, c'est question que, à Kinshasa, qu'on puisse nous aider aussi à nous installer.
Oui, mais qu'est-ce qu'il vous faut exactement ici, à Kinshasa, sur place?
Bon, à Kinshasa, sur place, il y a déjà un représentant qui est là, monsieur Kifaya Kassita. Donc, c'est lui qui mène un peu de marche. Mais nous voulons, par exemple, pour le matériel, le faire parvenir à Kinshasa. Et il y a la douane qui doit intervenir. Et nous, on voudrait bien que, par exemple, le Congo ou l'État puisse nous aider pour l'exonération de taxes pour des douaniers avec tous ces médicaments qui vont venir.
Monsieur Van Gouet, pour toutes ces démarches, êtes-vous déjà entré en contact avec le ministère de la Santé? Parce qu'en fait, c'est lui le ministère de tutelle.
Oui, normalement, les dossiers sont déjà rentrés là-bas. Mais bon, on attend la réponse. Hein, et même, il y a un document qu'on devait nous donner d'un département, et j'oublie les noms, et pour une reconnaissance officielle des activités.
Ok. Quelle quantité avez-vous exactement d'intrants et de matériel? Vous pensez pouvoir venir en aide à combien de personnes?
Pour les appareils, nous avons à peu près 15 appareils de dialyse. Mmh. Et tous les entrants, donc chaque appareil a des entrants, comme le docteur avait dit l'autre fois. Donc nous avons, et pour les médicaments, une très bonne quantité. Je ne sais pas évaluer. Quand on aura un feu vert à Kinshasa, la société Bacter va nous livrer la quantité que nous allons exiger suffisante pour la population qui sera prise comme un échantillon, quoi.
Voilà, vous venez d'entendre un compatriote, Monsieur Van Gogh, qui vit à l'étranger, qui ont pensé apporter une solution directement en République démocratique du Congo pour notamment diminuer tous les frais de déplacement des malades qui iraient à l'extérieur. Voilà qui est une très 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 bonne chose. Et si tout cet équipement arrive ici au Congo Kinshasa, eh bien les malades seront directement soignés ici. Il n'y aura plus personne qui va chercher des visas ou des billets pour aller à l'extérieur. Merci beaucoup, Monsieur Van Gogh, et si vous nous écoutez maintenant en direct sur Internet à Liège, merci de le faire. Et nous espérons que toutes les autorisations vont être délivrées de telle sorte que tout le matériel et tous les équipements puissent arriver à Kinshasa. On se retrouve dans quelques instants. Juste signaler que Monsieur Van Gogh était interrogé par ma consoeur Nathalie Moutéba.
Okapi, Mbujimayi, sur 93.8 FM.
L'Association nationale des infirmiers du Congo, ANIC en sigle, le bureau provincial du Kassai oriental, entame le recensement des infirmiers qui travaillent dans la région. L'initiative est louable, mais n'est pas appréciée par ceux que les infirmiers qualifient de charlatans. Mais le comité provincial de l'ANIC a donné le ton au cours d'une réunion qui a regroupé tous les principaux responsables du Kassai oriental la semaine dernière. Pour évoquer la question, nous avons en ligne depuis Mbujimayi notre confrère Julien Nyamoni. Bonjour Julien.
Bonjour Walter, bonjour à tous.
Première question, et c'est ce qu'on voudrait savoir, pourquoi le comité provincial de l'Association des infirmiers du Congo tient mordicus à procéder au recensement des infirmiers qui pratiquent cet art, l'art de guérir, dans le Kassai oriental?
Écoutez Walter, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a double objectif que s'est assigné le comité provincial de l'ANIC. Le premier, c'est la protection de la profession infirmière. Et comme l'a si bien expliqué Madame Brigitte Mbombo, présidente provinciale de l'ANIC au Kassai oriental. Et puis, le deuxième objectif, c'est pour protéger la population. Il faut donc souligner ici que le comité procédera à un recensement en application de l'instruction du ministère de la Santé en vue de savoir qui est infirmier et qui ne l'est pas.
Comment est-ce qu'ils vont procéder à ce recensement? Est-ce qu'ils ont un mécanisme déjà bien fixé?
Apparemment oui, et d'après la présidente du comité provincial, une commission dite de recensement vient d'être mise en place par son bureau. Cette commission, qui est dirigée par Mme Henriette Mitterrand, infirmière de son état, travaille déjà. Elle aura pour tâche de mettre en place des sous-commissions qui devront donc questionner l'ensemble de la province du Kasaï oriental.
Est-ce que vous avez pu noter une impression particulière de la part de la présidente avec laquelle vous parliez de ce dossier, dès lors que l'on sait que l'initiative n'est pas appréciée par ceux qui sont qualifiés de charlatans, c'est-à-dire, disons, des gens qui exercent l'art de guérir sans en avoir le droit ni l'autorisation?
Tout à fait, Walter. C'est une impression, en fait, je dirais, de peur, dans ce sens que la vie d'une personne est sacrée et en tant que telle, on ne peut pas confier un malade entre les mains de charlatans. Et ici, au Kasaï oriental, il n'en manque pas. Madame Brigitte a fait valoir qu'il est inacceptable, je voulais dire, qu'il est inacceptable de laisser la profession à la portée des coups.
Julien, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a ne serait-ce qu'une idée sur le nombre des faux infirmiers qui exercent le métier dans le Kasaï oriental? Parce que c'est là le gros problème.
Oui, je dirais que les chiffres qu'on avance ne sont pas fiables. Déjà en 2000, ce travail de recensement avait été amorcé sur environ 1200 dossiers dans la seule ville de Mbujimaï. 35 faux infirmiers ont été démarqués. Une cinquantaine autres ont été suspectés. Non seulement elles ne voulaient pas se présenter devant la commission, mais aussi et surtout les dossiers étaient litigés. Alors, il faut dire, et c'est pour rappeler, que d'après Mme Brigitte Mbombo, 10% des infirmiers actifs sont faussaires ici en Mbujimaï. Vous comprenez que le taux est important et donc c'est dangereux.
Mais est-ce qu'il ne se pose pas le problème dès le départ en termes des formations déjà, Julien?
Oui, bien sûr. Dans la mesure où pour la seule ville de Mbujimaï, il y a plus de 4 systèmes, si je veux dire, instituts techniques médicaux, c'est-à-dire des institutions de formation non agréées que privées. 4 institutions de formation sont reconnues par l'État congolais, dont une institution officielle, les 3 autres sont privées et agréées. Or, il existe plus de 5 systèmes non agréés qu'ils mettent sur le marché de l'emploi. Prenons un minimum de 50 diplômés par année, vous comprendrez que la catastrophe est vite arrivée en faisant les calculs. C'est près donc de 250 infirmiers par an qu'on va déverser sur le marché d'emploi. Et donc c'est dangereux et vous savez ce que cela peut devenir dans les années qui viennent.
Dans ce cas, on comprend alors que c'est les craintes de l'Association nationale des infirmiers du Congo sont vraiment justifiées.
Oui, effectivement, on en veut pour exemple plusieurs arrestations de charlatans qui font la prison pour avoir mal soigné telle ou telle autre personne. Et certains sont enfuis ensuite, et d'autres encore s'étaient évadés donc de la prison. Vous comprendrez que les charlatans, il en existe encore ici, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants.
L'idée de faire un recensement des infirmiers au Kasaï oriental est louable, mais est-ce que le comité provincial a les moyens de faire aboutir cette opération?
Oui, disons que dans le contexte actuel, c'est difficile comme me le disait encore Madame Henriette Mitterrand, qui affirmait que la première chose, c'est la volonté qu'il faudrait avoir pour faire aboutir ce travail. C'est vrai aussi, elle a reconnu des difficultés d'ordre logistique et même financier. Mais il faut le faire parce qu'il s'agit de la vie humaine. Une autre difficulté, c'est l'absence des répertoires au niveau national, ainsi que les palmarès de certaines écoles. Ce sont des documents de base qui permettent justement de vérifier objectivement les dossiers des infirmiers. Ce n'est pas seulement les diplômes qui comptent, parce que les diplômes, on peut les falsifier, on peut l'acheter, c'est facile, mais un atout non négligeable dans cette affaire, c'est le soutien que le comité provincial a du ministère de la Santé, de l'inspection médicale provinciale et bien sûr du comité national des infirmiers donc, du Congo.
Voilà, les infirmiers, c'est encore très important. D'ailleurs, selon certaines informations, les infirmiers soignent beaucoup plus que les médecins eux-mêmes. Et donc, il est important que les infirmiers soient des bons parce qu'ils ont la vie ou la mort des gens entre leurs mains. Nous aurons un peu plus de détails sur la faisabilité de cette opération avec Madame Brigitte Mbombo que nous allons appeler dans quelques instants. Julien Amoni, merci beaucoup. Il faut dire que vous êtes un peu pris en labour parce que il y a d'autres urgences qui vous attendent. Merci de l'avoir fait et surtout d'avoir patienté. À bientôt sur nos antennes.
Merci, Walter.
Okapi. En FM, sur Internet, par satellite. Okapi. Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Radio Okapi, nous allons continuer avec cet échange sur principalement le recensement des infirmiers qui est annoncé pour la province du Kasaï oriental. Nous devrions avoir en ligne Madame Brigitte Mbombo. Madame Brigitte Mbombo, bonjour.
Bonjour, monsieur Walter.
Vous êtes présidente du comité provincial de l'Association nationale des infirmiers du Congo, province du Kasaï oriental. Vous annoncez une opération de recensement des infirmiers qui sont actifs sur le terrain dans la province. On note qu'il y a 10% des personnes qui exercent illégalement l'art de guérir. Est-ce que vous pensez que votre tâche est facile à faire?
L'opération n'est pas facile, hein, mais c'est pas pour autant que nous allons ne pas le faire parce que c'est capital. Nous considérons que c'est capital, mais c'est à faire. Parce que comme vous le savez, la population a besoin de recevoir des soins des personnes qui sont qualifiées et des personnes qui sont habilitées à donner ces soins. Or, c'est pas le cas en ce moment dans la plupart des institutions de soins qui sont dans notre province. C'est la raison pour laquelle nous devons y aller contre vent de marée, nous devons y aller. C'est pas facile, mais nous devons le faire.
Mais nous avons appris qu'il y a au moins 10% d'infirmiers sur terrain qui ne sont pas habilités à le faire. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ces gens ont commencé à exercer sans être autorisés ou sans avoir la compétence?
Ah oui, monsieur Walter. Mais pourquoi? Mais parce que vous savez que les soins de santé, c'est une marchandise qui se vend très facilement chez nous. Il n'y a pas d'emploi. Vous savez qu'il n'y a presque pas d'emploi chez nous. Et les personnes considèrent maintenant que s'ils passent à l'école d'infirmière, ils font un tour par là, ce que j'appelle juste faire un tour, un an ou deux, ils vont en stage, ils regardent quelques bases de soins, comment ils sont faits. Alors ils pensent ils peuvent aussi aller le faire. Alors ils peuvent, comme chez nous, on ne contrôle pas tellement l'implantation de l'institution de soins. Ce que je rappelle d'ailleurs des bicoques, ce ne sont même pas des institutions de soins proprement dites, ce sont des bicoques qu'on appelle centres de santé, là, qu'on ouvre à tort et à travers nos villes et nos districts, nos villages et tout ça, et on écrit un grand centre de santé, on commence à chipoter là-dedans. Donc, c'est ça. Même quand nous posons la question aux élèves, aux étudiants que nous enseignons, pourquoi vous êtes venus étudier à l'école d'infirmière, ils nous disent c'est pour aller faire un centre de santé. Alors vous comprenez, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de contrôle. Sous d'autres cieux, vous le savez, vous ne pouvez pas exercer une profession de santé sans être connu, sans être enregistré, sans avoir l'autorisation d'exercice. Or, chez nous, il n'y a rien qui se fait de tout ça. Dès que la personne a terminé, bon, elle se croit autorisée à faire n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont terminé, il y en a qui n'ont pas terminé, tout simplement. Il y en a aussi qui apprennent sur le temps en regardant leur père faire ou leur soeur ou je ne sais pas qui, dans un centre de santé, un papa avec ses enfants, venez voir comment je fais, et puis ses enfants commencent aussi à soigner. C'est ça,
voilà. Nous avons appris que il y a une commission qui est sur pied d'œuvre pour faire ce recensement, qu'il y aura des sous-commissions à l'intérieur de cette commission. Concrètement, comment ils vont procéder? Comment les membres de cette commission vont procéder pour faire ce recensement?
Le samedi dernier, nous avons tenu une réunion importante avec les membres de cette commission et les présidents des districts, de nos districts intérieurs, notamment Kabinda, Chilengue, la ville de Mwenekitu, et le président de Sankuru a suivi, si je peux ainsi dire, la réunion par téléphone, parce que nous étions en contact avec lui à plusieurs reprises. Mm. Alors, nous avons mis en place cette commission qui comprend l'ancienne commission, parce qu'en fait, nous avons déjà une commission qui a déjà fait ce travail en 2000, mais ce travail a été fait au niveau de la ville de Mbujimayi tout simplement. Nous avons reconduit quelques membres de cette commission-là qui avaient été efficaces à cette époque, auxquels nous avons ajouté trois membres de l'actuel comité provincial, plus deux membres de chaque district. Hein, donc deux membres de Kabinda, un président, plus une autre personne, une deuxième personne, ainsi de suite. Et donc cela fait l'ensemble de la commission. Et au sein de cette commission, il va y avoir des sous-commissions composées de deux membres de chaque district, plus deux ou trois membres qui sont ici, en Mbujimayi, c'est-à-dire les membres du comité urbain et du comité provincial. Alors, ces sous-commissions vont établir, disons, la commission va élaborer un calendrier et chaque sous-commission va aller à l'intérieur pour faire son travail.
Oui, oui.
La sous-commission de logement, il va faire aussi également son travail.
Mmh. Mais oui, madame, disons, les commissions sont sur terrain, elles ont fait leur travail, elles ont fait le recensement, elles ont rédigé, elles ont identifié toutes les personnes qui exercent le métier de guérir dans la province du Kasaï oriental. Et bien, qu'est-ce qu'il en advient de toutes ces décisions? Quelles sont les recommandations que vous allez faire, notamment en ce qui concerne les personnes que vos commissions auront jugées de non autorisées à exercer l'art de guérir?
Oui, monsieur Arthur, ce recensement va se passer en trois étapes. Hein. La première va consister en l'enregistrement. Tout simplement, nous allons enregistrer tout celui qui se déclare infirmé. Nous allons tout simplement enregistrer. Par la suite, il y aura un travail d'analyse. C'est celui-là, c'est cette étape-là qui est la plus difficile et la plus longue. La commission va s'enfermer au bureau avec tous les documents, les références, notamment les palmarès des différentes écoles. Ils vont se mettre, ils vont analyser les dossiers de chaque personne qui se sera fait enregistrer et on va contrôler si réellement la personne a terminé. Pour le palmarès que nous n'avons pas, nous allons faire comme l'autre fois, nous allons écrire les différentes écoles concernées ou aux directeurs de coordination des items, donc des instituts supérieurs de technique médicale, qui vont nous répondre. Et à partir de là, on va tirer des conclusions et la commission va nous communiquer les différentes listes. Donc, il y aura la liste des personnes qui sont en ordre, il y aura la liste des personnes des faussaires, tout simplement, qui n'ont jamais été étudiées, et il y aura peut-être une autre liste des personnes pour qui on n'aura pas... Parce que pendant la période de l'analyse, nous invitons aussi, hein, la commission invite les gens à venir s'expliquer et tout ça, donner des éclaircissements. Cette personne-là, on va dresser aussi leur liste. Alors, c'est liste que nous allons faire.
Voilà, c'est ça l'issue.
La liste des personnes qui sont en ordre, elle sera transmise au médecin inspecteur provincial qui nous a demandé ce travail, en fait, qui n'a fait qu'enfoncer une porte ouverte parce que si le recensement était notre premier objectif, on ne peut pas travailler sans savoir, sans saisir les statistiques des infirmiers. Mm. Donc, cette liste sera transmise au médecin inspecteur qui va, à son tour, la transmettre au ministre de la Santé. Et alors, à l'inspection médicale, il y a un bureau qui s'occupe des contrôles de l'égalité des diplômes de tous les professionnels de santé de la province. Et nous allons aussi lui donner une copie de cette liste. Et c'est cet organe qui est habilité à entamer probablement des poursuites judiciaires, ainsi de suite.
Mmh. Voilà, c'est une tâche assez ardue que vous êtes en train de mener. Est-ce que vous la faites sans aucune appréhension? Vous n'avez pas certaines craintes, madame?
Bon, les craintes, monsieur Walter, Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que le travail que j'ai fait, c'est dans l'intérêt de nous tous, dans l'intérêt de la population. Mais qui est la population? La population, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde peut être victime d'un problème de santé et je ne vois pas qui peut s'opposer à ce que on puisse faire en sorte que chacun d'entre nous puisse avoir l'occasion d'être pris en charge médicalement correctement. Alors, la crainte, bon, nous-mêmes, nous sommes à la tête de l'association qui veut faire ce travail, donc nous ne pouvons pas craindre un blocage ici chez nous. Mm-hmm. Le président, le comité national et nous soutient. Mm-hmm. Nous lui avons déjà annoncé que nous allons amorcer ce travail. Le comité, le président national est tout à fait, nous soutient totalement. Les autorités de la place, il y en a qui sont déjà informés, nous allons continuer à les informer et à demander leur soutien, notamment la police et les autres. Mmh. Alors, je ne vois pas de quoi on va craindre. Ce n'est que les droits. Mmh. Nous avons le devoir de protéger la population, donc nous partons.
Voilà, donc tout ce qu'on peut, on peut retenir que cette opération de recensement des infirmiers en province du Kassai oriental est soutenue par toutes les autorités et il y va de la santé publique et de la vie des populations Kassai orientales.
Tout à fait.
Voilà, Madame Brigitte Mbombo, je vous souhaite en tout cas plein succès dans la réalisation de ce vaste projet. Il faut reconnaître que ce projet va faire tache d'huile parce que peut-être le même problème se pose aussi dans d'autres provinces qui sont en train de nous écouter maintenant. Peut-être qu'on prendra exemple sur ce que vous êtes en train de faire et que vous aurez fait jurisprudence, comme on dit, en droit. Bonne chance en tout cas.
Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci à Radio Okapi.
À bientôt. Okapi Action, fin de la première partie. On se retrouvera tout à l'heure pour la seconde. Okapi. Okapi. À partir d'aujourd'hui, Okapi Action met cap sur les suivis du processus électoral en République démocratique du Congo. Tous les jours, à cette heure-ci, à partir de 10h02, donc après le flash de Mini ou de Hadia ou de Rama, on aura une chronique élection en langue. Et le vendredi, nous aurons la même version en français avec les commentaires de vous, auditeurs, avec vos questions, avec les explications d'un expert en matière d'élection ou d'une personnalité qui exerce leur fonction actuellement au niveau de la commission électorale indépendante. Numéro 0 pour commencer aujourd'hui. Élection, c'est facile. Suivez.
Les élections, c'est facile à comprendre. Avec Thérèse Kankou et Franklin Moliba-Sessé.
L'élection est ngoloba, changement est kota na mboka. Moti kana biso mokoto pona motema la biso to linga mototo lingiye.
Mais les élections, est synonyme de changement de régime, nous avons besoin quand même de nouveaux dirigeants quand même.
L'élection na vite ko tuna vina ma si sinda ko eba ma élection ni ngezalia. Ya si si misa.
Nalo ma kamina koloba.
Si pa l'élection na koloba na.
Esther Ndalafina, jambo.
Jambo bwana François.
Kitu gani, jibu gani wewe binafsi unaweza ukamtolee mama yule wa soko asiyejua maana ya uchaguzi?
Kitu anachopashwa kujua ni kwamba uchaguzi ni njia ambayo wananchi wanachagua wajumbe wao.
Waliochaguliwa wanakamata madaraka na kujibu kwa mahitaji ya wale waliowachagua, wanakamata pia kusudio lolote kuhusu mambo ya taifa.
Mambo ya taifa inaelekea watu wote kwenye kijiji, kwenye muji, kwenye jimbo hata nchi nzima. Ndio maana kunafanyika uchaguzi ndani ya miji, ndani ya jimbo, ndani ya nchi.
Katika miji na katika majimbo, wanachagua wakurugenzi, washauri wa muji, gavana na washauri wa jimbo. Mkurugenzi anaongoza muji mdogo. Washauri wa muji wanakamata makusudio kwa jina la watu wa muji kuhusu mali ya jimbo. Mkurugenzi anaongoza mita, washauri wa mita wanakamata makusudio kujina la wakaaji kuhusu mambo ya mita yao.
Kukiwa uchaguzi wa nchi nzima ama kitaifa, wanachagua raisi wa nchi, wanabunge na wazee wa baraza la bunge.
Ndiyo, raisi wa nchi anaongoza nchi nzima. Wanabunge na wazee wa baraza la bunge wanapanga sheria na wanachugua mwenendo wa government kwa jina la wananchi.
Uchaguzi wa wajumbe wa wananchi unaweza kuwa sawasawa au apana?
Uko sawasawa kama wananchi wanachagua viongozi vyao bila kupitia kwa watu wengine. Hauna sawasawa kama washauri wa muji, wa jimbo, wa bunge ama wazee wa baraza la bunge wanachagua pahali pa wananchi.
Wanaochagua wanaitwa wachaguzi.
Ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchaguzi utakomesha kipindi cha mpito.
Kipindi cha mpito ni huu wakati mrefu uliogawia zaidi ya miaka 14 ulioanza mnamo tarehe 24 Aprili mwaka wa 1990.
Ici au Congo, les élections n'ont pas été élues. À l'époque du Zaïre, de Mobutu, c'était l'obligation. On nous oblige de voter toujours Mobutu.
Bon, depuis 60, les vraies élections sont les mêmes. Mais depuis là, de 60 jusqu'à présent, les élections sont les mêmes. Je suis très
heureux.
Watu wengi ambao tulikutana nao barabarani Esther Dalafina, hawajui kama kutakuwa uchaguzi huru usioficha kitu na wa kidemokrasia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulipenda kusema kwamba uchaguzi utakaofanyika siku za usoni utakuwa uchaguzi wa pili wa kidemokrasia baada ya miaka 40.
Uchaguzi huru wa kwanza ulitukia nchini Kongo ya Kidemokrasia mwezi wa Mei mwaka wa 1960. Uchaguzi huu uligusia ngazi yote ndani ya miji, ndani ya jimbo na nchi nzima.
Asante sana Esther Dalafina.
Asante kwako bwana François.
Okapi. Okapi.
Okapi. Le Congo à l'écoute.
Tous les jours sur Radio Okapi, il y aura une chronique élection en langue nationale. Lundi, ce sera le Swahili, mardi le Tuluba, mercredi le Kikongo et jeudi le Lingala. Le vendredi, nous aurons une version française en 3 minutes et après, nous recevrons un invité, un expert en matière électorale pour commenter l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Évidemment, avec vous, chers auditeurs, parce que nous sommes là pour vous. Déjà, vous pouvez commencer à réagir en attendant le grand débat de chaque vendredi à 10h03, heure de Kinshasa. Envoyez-nous vos points de vue, vos réactions sur le thème vous proposé la semaine à action@radiookapi.net. Ça peut être un email, ça peut être un SMS, comme on dit. Et à ce moment-là, lorsque nous serons en direct le vendredi à commenter le thème choisi chaque semaine, ça sera déjà enrichi avec vos questions, avec vos points de vue. Radio Okapi, Okapi Action met le cap sur les élections, c'est facile à comprendre. Ça sera tous les jours de 10h02 à 10h05, après le flash de 10h. Nos confrères et consoeurs Franklin Moliba-Sessé et Thérèse Kankou nous prépareront cette chronique et nous on la diffusera. Évidemment. Merci beaucoup. Bien, merci. Nous vous disions tout à l'heure en ouverture d'émission, on se posait une question. Que se passe-t-il pour les survivants d'un accident d'avion? Ils sont fortement traumatisés, évidemment. Certaines personnes perdent l'usage de leurs membres ou toute chance de reprendre du service. Les rescapés d'un accident d'avion sont-ils toujours dédommagés? En tout cas, pas toujours ou presque jamais. Les rescapés du crash du marché type K attendent encore depuis 12 ans un quelconque dédommagement, on peut le dire. Mais et quelle procédure judiciaire faut-il suivre pour obtenir réparation? On va en parler avec un invité ici en studio. Et puis nous aurons Maître Dominique en direct depuis Kindu pour intervenir par rapport à cette question. Pour commenter d'abord ce qui se passe au niveau de l'après-crash, qu'est-ce qui se passe après? Nous avons un technicien qui est dans le domaine de l'aviation, ingénieur Denis, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, vous, dans le domaine de l'aviation?
Moi, je suis électricien avion. Mm-hmm. J'ai commencé à l'Air Zaïre. Mm-hmm. J'ai travaillé, quand j'ai terminé mes formations aéronautiques, on m'a affecté dans un atelier où je travaillais pendant plusieurs années. Mm-hmm. Après, parce que avant de travailler là-bas, vous suivez les formations. J'ai suivi les formations de l'ITA, du Paname. Mm. Et après, j'étais affecté dans l'atelier. Après atelier, eh ben, il y a quelqu'un, un patron,
oui.
qui m'a demandé de quitter El Zaïre.
Oui.
J'ai quitté El Zaïre. Je suis allé travailler chez lui pendant 6 ans.
Mm-hmm.
Et pendant ces 6 ans, je travaillais de 4 heures du matin à minuit. Pendant 2 ans, il avait un petit avion là. Après, mm-hmm. il a eu, je crois, 4 avions, un Antonov 26. Après, il y avait encore les avions Convair qui a été écrasé à Chicapa.
Mais oui, c'est ça, c'est là le sujet qui nous intéresse. Donc, pendant cette carrière, en notre point de vue social, votre condition n'a pas augmenté, et que le patron, lui, son entreprise a grandi. Mais,
tout à fait.
Voilà. Et que vous n'avez rien à changer dans votre situation sociale. Mais pendant votre expérience, vous avez vécu aussi une catastrophe, notamment ce crash-là. Vous étiez dans l'avion, vous êtes un rescapé. Comment ça s'est passé?
Moi, je n'étais pas dans l'avion, mais j'ai préparé l'avion au départ.
Au départ, oui.
L'avion est parti avec un équipage. Il y a les gens qui ont fait l'accident qui sont là, et celui qui était aussi dans l'avion était là. Mais moi, quand l'avion a crashé, le patron m'a pris. Il m'a pris, moi, avion X, électricien avion. Il a pris un mécanicien avion qui est sur place, le Lucas Claude. Il a pris un taulier, Condé, qui est aussi sur place. Nous sommes allés là-bas avec le même patron dans le même avion jusqu'à Chicapa. Il nous a laissé là-bas pour dépiécer. Il nous a laissé, il nous a fait laisser comme ça abandonner. Et après, il y a eu l'entrée de la FEDEL. Il nous a abandonné là-bas. Nous avons téléphoné avec le patron de Guilaer, qui lui a eu au téléphone, qui lui demandait, mais les mécaniciens sont ici, ils n'ont pas à manger.
Qu'est-ce que j'en fais?
Est-ce que je peux leur donner l'argent? Il a coupé le téléphone. Quand il a coupé le téléphone, nous, on était abandonnés. On s'est débrouillés. On a fait les pieds de Chicapa, Kinshasa.
Et comment ça s'est passé après, aujourd'hui? Ça fait combien d'années? Ça s'est passé il y a combien d'années? Disons, en 97.
Oui.
En 97.
Non,
et jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé d'entamer une procédure judiciaire en vue d'obtenir réparation pour vous, d'abord, technicien, et pour d'autres rescapés? Parce qu'il faut dire que dans cet avion, il y a eu des rescapés.
Si, dans cet avion, il y a eu une hôtesse qui était tombée, cassée la jambe, je ne sais pas, 2 ou 3 fois. Elle était abandonnée, nous avons fui parce que ça n'allait pas. On l'a abandonnée dans un village, là, tout justement à l'aéroport. Mais quand le patron est arrivé, il n'a pas demandé où elle était, ou il ne s'est même pas posé la question. Et nous, on s'est débrouillé de notre façon. On a fui dès 21h. Le 21h, cette nuit-là, on est allé jusqu'à 32 km par la route.
Oui, oui, papa Denis, ce qui est intéressant au stade actuel, c'est vrai, l'histoire est longue à raconter, on ne peut pas la raconter toute sur la radio, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau des procédures judiciaires pour obtenir réparation. Parce que d'autres personnes pourront être victimes des mêmes choses, mais en fonction d'un procès qui aura peut-être réussi, ça peut sauver bien d'autres personnes. Est-ce que vous avez essayé d'introduire des recours au niveau des cours et tribunaux?
Justement, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, il nous a mis en congé technique. Après un congé technique, je ne sais pas, de 2 semaines, il m'a repris, moi. Il m'a appelé, moi, pour travailler.
Ah, vous avez été réintégré?
Oui, j'étais intégré. Je n'avais pas le moyen de porter plainte, parce qu'il nous avait abandonné. Il nous a pas secouru quand on était en danger. Moi, il m'a repris.
Et les autres?
Il nous a repris 2 personnes, 3 personnes. L'autre, après un mois, il est parti lui-même. Il était fâché, il est parti parce qu'on nous a pas payé.
Voilà. Et d'autres personnes, est-ce que tout le monde, l'hôtesse notamment dont on a parlé tout à l'heure, qui est
restée? Si elle est en vie, je la connais.
Elle est en vie, est-ce qu'elle a été réintégrée dans le service?
Jamais, elle n'a pas été réintégrée, on ne l'a même pas cherchée.
Est-ce qu'elle a porté plainte pour demander réparation au niveau judiciaire?
Je suis sûr qu'elle a porté plainte.
Est-ce que le procès a abouti?
Rien, on n'était pas payé.
Le procès n'a pas abouti. Nous avons en ligne depuis Kindu, Maître Dominique Kamwandu. Maître, bonjour.
Bonjour, Alfred.
Maître Dominique, vous avez suivi cette histoire. La question est simple. Lorsqu'on est victime notamment d'un accident d'avion, on est survivant d'un crash d'avion. On est traumatisé, on peut perdre l'usage de certains membres. Et à quel recours est-ce qu'on peut s'attendre pour obtenir réparation? Quelle procédure?
Merci beaucoup. Nous nous retrouvons là dans une situation d'accident qui a causé préjudice aux personnes. En principe, nous sommes en matière de responsabilité civile et il s'agit de la matière civile, quand on veut avoir réparation pour les préjudices subis, on doit saisir le tribunal de grande instance qui est compétent en fonction du lieu de l'accident ou de la résidence de l'auteur de l'accident. Et c'est ce tribunal qui est compétent pour statuer sur les litiges et déterminer la réparation que doit supporter l'auteur de l'accident pour indemniser la victime.
Mais alors, on se retrouve dans certaines situations où, notamment un ingénieur électricien d'avion qui a été pratiquement abandonné par son patron, abandonné dans un village où il y avait eu un crash, mais peut-être pour l'empêcher de porter plainte, le patron le réintègre aussi, et puis il a été renvoyé par la suite.
Ok, merci Walter, mais là il faut qu'on précise une chose, l'ingénieur en question n'a pas subi l'accident, n'a pas subi un préjudice du fait de l'accident. Mm-hmm. Il a été amené sur le lieu pour faire son travail dans le cadre du contrat qui le lie à son employeur.
Oui, tout
donc
à fait.
Il y a là une question des droits du travail, mm-hmm. et non pas une question des responsabilités civiles.
Oui.
Effectivement, l'employeur a manqué à ses obligations en ce qui concerne l'encadrement, le paiement de salaire et les moyens de subsistance à ses travailleurs en opération pour son compte. Mm-hmm. Effectivement, il y a une faute de la part de l'employeur et cette faute peut amener les travailleurs à se plaindre, non pas devant une juridiction civile, mais devant une juridiction du travail.
Tout à fait.
Donc, là, nous sommes en matière du travail pour demander réparation.
Voilà.
Alors, ils peuvent demander que l'employeur leur rembourse tous les frais qu'ils ont dépensés pour leur séjour pendant qu'ils étaient à son service, parce que ces frais devaient être pris en charge.
Mm-hmm.
Et préalablement à cela, ils doivent, en principe, comme il s'agit d'un litige de travail, se référer d'abord à l'inspection du travail.
Tout à fait. Alors, pour revenir, donc pour le cas de l'ingénieur Demi, votre situation, c'est une situation de conflit de travail. Mais pour le cas notamment des survivants, des rescapés, il y avait notamment une hôtesse de l'air dans cet avion qui, par la grâce des dieux, ça il faut le dire, elle a été sauvée, elle a eu des fractures, elle n'a jamais été reprise au travail, elle n'a jamais été dédommagée. Nous sommes avec elle dans les bureaux de Radio Okapi, mais elle ne peut pas parler parce qu'elle voudrait garder son anonymat. Mais le problème est aussi simple que celui-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour obtenir réparation?
Effectivement, j'ai suivi son intervention avant. Effectivement, elle, en tant qu'hôtesse de travail, était en train de travailler, était en vol au moment où il y a eu l'accident. Effectivement, elle a subi un dommage du fait de cet accident. Mais elle n'était pas tiers transportée au moment de l'accident, parce que pour la réparation en matière des dommages civils, pour les cas de réparation des responsabilités civiles, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait un dommage, il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait lien de causalité entre les deux, et en principe, pour des pareils accidents, on exige la réparation pour les tiers transportés, c'est-à-dire les personnes qui n'appartiennent pas à l'employeur ou à la société. Et même lorsqu'il doit jouer en ces cas une assurance pour la réparation, ce sont ces personnes qui sont prises en compte par la responsabilité civile. En ce qui concerne la situation de l'hôtesse, ce qu'elle a subi, c'est un accident de travail. Effectivement qu'elle a droit à la réparation, mais pas au dédommagement, comme on l'a dit dans le cadre de la responsabilité civile, parce que ce qu'elle a subi, c'est un accident de travail. Elle a connu un accident pendant qu'elle était en train de travailler. Son cas n'est pas différent d'un chauffeur de bus ou de taxi qui commet un accident et qui se blesse, ou d'un cuisinier qui est, par exemple, engagé au restaurant de grand hôtel et qui se brûle la main pendant qu'il est en train de travailler. Donc, il s'agit là, pas d'un cas de responsabilité civile dû à l'accident, mais pour elle spécifiquement, il s'agit d'un cas d'accident de travail.
Mais
dans
oui.
pareil cas, la législation du travail prévoit des mesures de sécurité sociale pour protéger l'agent victime.
Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire actuellement parce qu'elle a été licenciée, elle ne travaille plus, elle a gardé tous ses traumatismes, tous les dossiers n'ont pas abouti par rapport à cette procédure spécifique. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Maître Dominique?
Effectivement, nous nous trouvons là dans une situation de conflit de travail. Je ne sais pas, son accident, son licenciement d'acte de camp.
Depuis 1997
travail, avant de saisir le tribunal du travail pour demander réparation ou dédommagement de tout préjudice subi dans le cadre d'un contrat, on doit préalablement passer par la procédure de conciliation obligatoire devant l'inspecteur du travail. Si elle est encore dans les délais, je lui conseillerais de saisir l'inspecteur du travail du ressort du lieu où elle était engagée et où elle exerçait ses fonctions, pour une procédure de conciliation préalable, et si, au bout de la conciliation, son employeur ne répond pas favorablement ou il n'arrive pas à se mettre d'accord, elle peut se référer au tribunal. Pour le moment, les tribunaux du travail ont été créés, mais ils ne sont pas encore effectifs. Il peut se référer à la chambre du travail du tribunal de grande instance.
Mais Maître Dominique, selon nos informations, est-ce que le patron de l'hôtesse n'a jamais répondu à aucun rendez-vous au niveau de l'inspection du travail? Maître Denis, peut-être une précision là-dessus. Maître Dominique, écoutez un peu une précision par rapport à ça de notre ingénieur en studio.
Oui, mais moi je peux vous dire que ce patron est vraiment têtu. Il n'a jamais répondu aux accusations. Moi, je suis l'objet de là, il n'arrive pas, il envoie les gens avec beaucoup d'argent là pour corrompre les inspecteurs du travail. Moi, j'étais jusqu'au niveau de l'inspecteur général. J'ai même écrit au ministre, j'ai la lettre du ministre qui avait demandé l'inspection dans cette société-là. Mais tu vois, on a mené de l'argent, on a tout fait. Eh bien, les inspecteurs ont dévié, ils n'ont pas dit la vérité jusqu'aujourd'hui.
Maître Dominique, quelle est votre réponse?
Effectivement, devant une situation comme celle-là, ce qu'on peut demander à l'inspecteur du travail, c'est juste de donner un procès verbal de carence ou de non-conciliation. Ça, c'est aussi simple. Peut-être que les intéressés ne savaient pas, ils peuvent demander si la personne ne se présente pas ou envoie des gens qui n'ont pas habilité, qui ne sont pas habilités pour le représenter ou l'engager. Ils peuvent demander à l'inspecteur du travail un procès verbal de non-conciliation. Pour l'inspecteur, constate juste qu'il a convoqué l'employeur qui ne s'est pas présenté et délivre un procès verbal de carence ou de non-conciliation. Et cela permet à l'employé de saisir valablement le tribunal. À défaut, son affaire sera dite irrécevable devant le tribunal.
Oui, une précision de l'ingénieur Denis.
Maître, je vous dis que ce monsieur, il a un chef du personnel, il a un type qu'on appelle la OPJ de la compagnie, à qui il donne l'argent.
Mais non, la précision de Maître par rapport à la procédure, est-ce que au niveau de l'inspection du travail, il a été dressé un procès verbal de non-conciliation qui devait vous permettre d'aller maintenant saisir le tribunal?
Non, moi j'ai souffert quand personnellement, je donne un exemple. Oui, je donne un exemple. Quand j'étais révoqué, je n'avais rien, on m'a donné 2000 francs pour vivre. Mais quand on me dit non, on ne vous paye pas, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Tout ça, c'est quand il savait que vous avez un tel problème, il doit vous écarter.
Ok, selon mes informations, dans le cas de l'hôtesse, on en est arrivé jusqu'au procès verbal de non-conciliation.
Oui.
Est-ce que l'hôtesse avait saisi le tribunal à ce moment? Le tribunal a été saisi, l'affaire a été jugée recevable et fondée. On a statué, mais pourquoi est-ce que le dossier n'a pas abouti jusqu'aujourd'hui? L'hôtesse a perdu le procès, Maître Dominique, malgré toutes les preuves.
Si je vous comprends bien, c'est-à-dire avec l'hôtesse, elle a eu un PV de non-conciliation, elle a saisi le tribunal, l'affaire avait été déclarée recevable et fondée. Si l'affaire a été déclarée recevable et fondée, c'est qu'elle a un jugement qui lui donne droit, qui lui donne des avantages. Et maintenant, ce qu'il faut chercher à faire, c'est initier la procédure pour exécuter ce jugement. Parce que si elle a déjà un jugement qui a fait longtemps, auquel il n'y a pas eu appel, on suppose que son jugement a acquis autorité de la chose jugée, et à l'heure qu'il est, ce jugement est irrévocable. On peut l'exécuter.
Mais voilà, donc c'est ce que...
Elle a cherché à faire exécuter son jugement si elle l'a.
Voilà, elle a eu un jugement, elle a gagné le procès. Hein, malheureusement, à l'étape de l'exécution du procès, son ancien employeur dit qu'il a des amis et il refuse de payer. C'est là qu'on en est.
Effectivement, en cas de refus, c'est de la mauvaise foi. Il peut aller au greffe d'exécution du tribunal qui a rendu l'exécution. On prépare la procédure d'exécution forcée. La justice peut ordonner que les biens de son ancien employeur soient saisis pour la désintéresser. La procédure prévoit tout ça et en cas de résistance, on peut même recourir au procureur de la République qui peut requérir la force pour l'exécution du jugement, parce que les jugements sont rendus au nom du chef de l'État et doivent être exécutés dès lors qu'ils sont irrévocables. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de recourir à la procédure d'exécution forcée comme la personne a refusé de s'exécuter volontairement.
Voilà, c'est ce qu'on va suivre par rapport à ça à la suite. Là, c'est le cas de ce conflit. Mais une question d'un auditeur qui nous avait appelé de Lubumbashi par rapport à ça, Pierrot Camon, il voulait savoir qu'il se trouve parfois que par manque des moyens, une personne n'a pas un billet d'avion qui ne porte pas un billet d'avion qui ne portait pas son nom, donc qui lui a été revendu par une personne interposée. Est-ce que si un crash survient, cette personne-là qui a été victime, mais dont le nom n'est pas sur le billet, peut être dédommagée?
Lui-même n'est pas... Bon, là, il se pose un problème au niveau de la justice. Et en principe, quand on se présente devant la justice, on doit avoir une qualité. Et quand on n'a pas cette qualité, on peut avoir raison sur le fond, mais être débouté et l'action peut être dite irrécevable pour défaut de qualité, parce que la personne qui a introduit l'action, qui s'est présentée devant le tribunal, n'est pas habilitée. En droit, on dit nul ne plaide par procureur, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut se présenter devant le tribunal pour demander quoi que ce soit. Si la personne n'est pas sur place, c'est plus simple de trouver un avocat par l'intermédiaire des amis et de la famille, lui donner une procuration, et un avocat peut valablement, à l'absence de la personne intéressée, saisir le tribunal et suivre toute l'action. Donc les avocats et les défenseurs judiciaires ont le monopole de la représentation en justice. Une autre personne tierce ne peut pas représenter valablement une autre en justice. Ce qu'il faut lui demander, c'est de passer par le biais d'un avocat. Son affaire sera suivie et va suivre la procédure normalement.
Voilà. Maître Dominique, on va peut-être se quitter sur cette dernière question. Le cas de l'ingénieur qui a un conflit de travail, qui a été remercié après, et que au niveau de l'inspection du travail, ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Une précision peut-être, ingénieur Denis, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui?
Oui, mais ils ont inventé un petit montant là pour me satisfaire.
Pour être désintéressé.
Voilà, mais ce n'était pas ça. Mes biens sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mes motos là, mon argent de prime, mon argent de transport de Chikapa à Kinshasa et tous les frais de tous ces jours qu'on a fait sur la route, ce n'est pas payé jusqu'à aujourd'hui. Le patron s'entête, il dit je ne paye pas. Il ne veut même pas me recevoir.
Et des comptes finales, on n'y a pas pensé?
On n'a pas pensé, on a donné un tout petit peu là pour je ne sais pas quoi. J'ai des papiers ici, si vous voulez voir.
Mais maître Dominique, dans ce cas, que peut faire l'ingénieur Denis?
Effectivement, comme si le journaliste a le PV de conciliation, donc la procédure devant l'inspecteur du travail vise à mettre fin au conflit à l'amiable de manière consensuelle. Mais si la solution proposée par l'inspecteur du travail n'a pas rencontré les attentes de l'employé, l'employé n'est pas obligé de suivre cela et de faire exécuter cela parce que ça vient de l'inspecteur du travail. Non, comme il est déjà passé par l'inspecteur du travail, qui n'a pas reconnu tous ses droits, mais avec ses PV qui reprend la proposition des solutions de l'inspecteur du travail, il peut valablement saisir les tribunaux et les tribunaux en matière du travail va statuer sur base de la loi et lui reconnaître ses droits après examen bien sûr de toutes les pièces qu'il présente et de ses prétentions. Si le tribunal déclare cela fondé, le tribunal va lui reconnaître son droit au décompte final et à tous les autres droits. Il dit que l'inspecteur a été corrompu et c'est pour cela qu'il a fait qu'il a donné une solution mitigée au dossier. Mais cela ne le lie pas. S'il a déjà le procès verbal, que ce soit des conciliations ou des non-conciliations de l'inspecteur du travail, il peut valablement saisir les tribunaux et présenter toutes ses prétentions et avoir la solution au niveau du tribunal.
Une réaction de Mme Vongamami qui vient de nous appeler de Kinshasa. D'abord, elle est sidérée, elle s'interroge comment les gens peuvent être aussi méchants. Ces gens ont travaillé pour cette compagnie aérienne, ils ont risqué leur vie, donc même s'ils mouraient, leur famille aussi ne serait pas indemnisée. Elle est vraiment sidérée. Alors elle propose, et pourquoi pas ne pas traîner cette compagnie en justice, dès qu'ils ont beaucoup d'argent. Madame Vonga pense que la prière des justes peut être réellement exaucée. Est-ce que c'est votre point de vue, maître Dominique, que l'ingénieur Denis et ses autres collègues peuvent saisir, traîner la compagnie en justice parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de l'issue que l'inspecteur du travail a donnée au dossier?
Pour moi, je pense que il est un peu difficile de juger les états d'âme des personnes. Effectivement, dans la société, nous vivons avec des personnes de plusieurs états d'âme. Il y a des personnes de bonne volonté, il y a des personnes de mauvaise volonté qui ne voient qu'à leurs intérêts. Bon, ça, c'est une question de considération personnelle. On ne va pas trop plonger là-dedans. Oui. Mais moi, je pense que la loi est là pour garantir la sécurité juridique à toute personne. Et lorsque cette loi est violée au détriment d'un individu, celui-ci, la loi lui donne le recours judiciaire pour avoir réparation et pour rentrer dans ses droits. Je sais que les méandres de la procédure sont parfois compliqués, mais on peut recourir aux avocats, aux experts pour être guidé, être accompagné dans cette voie afin d'obtenir gain de cause. Je sais que les procédures judiciaires chez nous durent aussi parfois longtemps. Cela décourage certaines personnes, mais il faut être pénace. Hein.
Ingénieur Denis, qu'est-ce que vous allez faire?
Personnellement, où irais-je? Parce qu'au tribunal. Au tribunal, il a les gens là-bas. Quand son dossier arrive, il coupe commission urbanisme de Limetela, l'inspecteur qui est là-bas. Il est payé chaque fin du mois.
Ce qu'on va faire, je vous propose une chose simple, ce qu'on va faire, on va vous mettre en contact avec les experts de Avocats sans frontières. Ils vont vous conseiller sur quoi faire. Maître Dominique, vous êtes d'accord qu'on vous mettra en contact, l'ingénieur Denis et Avocats sans frontières pour voir quel type de conseils vous pouvez lui donner?
Si Avocat sans frontières a une boutique des droits, il donne des consultations et des orientations gratuitement à toutes les personnes intéressées. Et à cette boutique, il y a des avocats qui font la permanence pour aider la population par des conseils juridiques. Cette boutique se trouve dans la commune de Kassabougou, au croisement de l'avenue Gambela et Lukandu, dans l'immeuble Max Center. Il y a une boutique de droit tenue par Avocats sans frontières et l'association d'avocates du Congo, où on donne en permanence des conseils juridiques gratuits.
Voilà. Vous avez noté l'adresse, le rendez-vous, vous pouvez y aller quand vous voulez, vous serez bien reçu. Maître Dominique, merci beaucoup d'avoir apporté tous ces conseils à l'ingénieur Denis et pour le cas d'une hôtesse de l'air dont le jugement n'a jamais été exécuté. Bon séjour à Kindu et bonne chance dans ce que vous faites par là.
Merci beaucoup, Walter, au revoir.
Ingénieur Denis, merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Réaction de Godé Boukani, qui nous appelle de Kassavubu, la commune de Kassavubu à Kinshasa. Il tient à nous remercier pour le travail qu'on accomplit dans Okapi Action. Godet pense que nous assistons le peuple congolais. Il dit que c'est vraiment un travail remarquable. Bon retour à Walter et bravo à toute l'équipe de Radio Okapi. Oh, merci Godet. Merci. C'est toute l'équipe de Okapi Action. C'est Nathalie Mouteba, c'est Nicole Ngaka, c'est Sylvie Sona, c'est Jody Keshama, c'est Jolie Mbalivoto, c'est Marcel Ngombo, c'est Walter Moulondi aussi, c'est tous les techniciens qui sont avec nous. Merci beaucoup. C'est Arlette Mouy qui a pris votre téléphone tout à l'heure. Voilà toute l'équipe. C'est un travail d'équipe. Merci quand même, merci beaucoup. Ok, alors nous parlons de autre chose, un sujet santé à présent. La méningite ou inflammation des méninges est une maladie extrêmement dangereuse, généralement provoquée par une infection. Elle se caractérise par une inflammation des membranes du cerveau et de la moelle épinière. Cette maladie est souvent difficile à diagnostiquer à un stade précoce, notamment chez les jeunes enfants, car les premiers symptômes sont relativement peu spécifiques. C'est ce qui explique que pour certains patients, les soins médicaux arrivent souvent trop tard. Quels sont les symptômes de la méningite? Comment la soigner? Comment prévenir? On en parle avec Nathalie Mouteba, qui est en studio avec nous. Nathalie, bonjour.
Bonjour Alter, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de la méningite. Pourquoi avoir choisi ce sujet?
Eh bien Walter, nous avons choisi de parler de ce sujet car nous avons été témoins nous-mêmes des cas de cette maladie et nous nous sommes posé la question de savoir si la population connaissait réellement l'existence de cette maladie.
Est-ce le cas?
Eh bien, je vous laisse plutôt écouter Walter, les auditeurs de Radio Okapi que nous avons interviewés.
J'attends parler des méningites mais je ne sais pas ce que c'est.
Je sais que c'est une maladie.
Vous savez comment ça s'attrape?
Non, malheureusement.
Je sais que c'est une maladie qui frappe, je pense, le cerveau ou la tête en général. Oui, en tout cas, je n'en sais pas plus parce que j'ai jamais eu quelqu'un de la famille qui a souffert de ça.
Mais de mon côté, maman.
On est bien monté, on est bien monté.
Non, on est bien combo.
Et ça, là, on est.
On est bien monté. Ingi malade kali makasi mingi daki mara swa neso malade mara swa neso nini tafika makasi yama yangu na somo meningite kwa nabi kaya mwana.
J'entends parler de la meningite, mais parce que c'est une maladie qui frappe dur, qui fait souffrir beaucoup de gens. Mais c'est une maladie aussi qui est infectieuse. Ça dure trop longtemps, mais je ne comprends pas comment ça peut atteindre tout le monde. Mais il paraîtrait en plus que c'est un virus.
Voilà des points de vue des gens que vous avez rencontrés dans certaines rues à Kinshasa, Nathalie Mouteba. Dites-nous, qu'est-ce que la méningite, Nathalie ?
Bien, Walter, avant de vous répondre, permettez-moi de vous définir les méninges de façon tout à fait sommaire. Le méninge est un terme issu du grec menix, qui veut dire membrane. Les méninges se sont constitués de trois enveloppes recouvrant le système nerveux central. Il s'agit de la dure mère, ou qu'on appelle aussi pachyméninge, de l'arcanoïde et la pi-mère, appelée également leptoméninge. Alors, les méningites ou la méningite correspondent donc à une infection de ces enveloppes. Ces infections sont causées par plusieurs types de virus, des bactéries ou des champignons.
Comment attrape-t-on la méningite ?
Eh bien, les méningocoques s'y transmettent par contact étroit, direct et prolongé avec les sécrétions nasopharyngées. On entend par contact étroit lorsqu'on est à moins d'un mètre des bactéries et direct et prolongé lorsqu'on y est pendant plus d'une heure.
Ok, donc alors, est-ce que les spécialistes que vous avez rencontrés ou pendant vos recherches vous ont-ils permis de nous dire un mot sur les signes ou si vous voulez, les symptômes de méningite ?
Eh bien, la méningite provoquée par les méningocoques associe un syndrome infectieux qui se caractérise par des fièvres, des maux de tête violents, des vomissements et un syndrome méningé qui se caractérise par une raideur de la nuque, la léthargie, des troubles de la conscience, voire le coma. Ceci généralement arrive aux jeunes enfants et aux jeunes adultes. Ce qu'il faut dire aussi, Walter, j'aimerais ici attirer l'attention de mère, c'est que la fièvre n'est pas une chose à négliger, surtout chez les enfants. Que vous constatez que la fièvre fait plus d'une journée, il faut directement aller voir le médecin. Donc, l'accès brutal, chez les nouveau-nés et les nourrissons, ces symptômes sont moins marqués parce que l'accès brutal de fièvre est parfois accompagné de confusions et des vomissements. L'apparition des taches purpuriques sur la peau s'étendant progressivement est un critère de gravité de l'infection et une menace de choc septique qui impose le traitement antibiotique et aussi parfois l'hospitalisation urgente.
En urgence, ce qu'on retient, c'est chez les enfants. D'ailleurs, tous les spécialistes du monde sont d'accord sur cette question, que lorsque souvent des gens arrivent à l'hôpital, c'est déjà trop tard, les séquelles sont nombreuses, c'est parfois la mort, malheureusement. Est-ce que, parce que vous avez parlé des petits-enfants et des jeunes adultes, la question qu'on se pose, est-ce qu'une personne âgée peut attraper la méningite ?
Oui, Walter. Il existe une forme de méningite qui est causée par le microbe H-influenza ou encore le S-pneumonia. Et ces deux microbes causent des infections méningées et septicémiques. Évidemment, on les retrouve le plus souvent chez les personnes âgées.
Et oui, alors on voudrait aussi savoir comment est-ce qu'on soigne la méningite, Nathalie ?
Eh bien, la méningite, c'est soignée par un traitement, elle est plutôt traitée aux antibiotiques qui est appliqué le plus rapidement possible. Le traitement s'effectue par voie intraveineuse et est poursuivi habituellement pendant 10 jours. Pendant très longtemps, Walter, on a utilisé la pénicilline G, mais des souches de sensibilité diminuées vis-à-vis à cet antibiotique s'étant développé, on traite désormais par la céphalosporine de troisième génération. Par contre, en Afrique, ça là on parle de l'Europe, mais par contre en Afrique et en Asie du Sud-Est, pour des questions de coût et de modalité d'administration, le chlorophénicol est l'antibiotique utilisé en routine sous forme injectable. Mais on craint aujourd'hui le développement de souches résistantes et cet antibiotique qui serait dramatique pour la lutte contre les épidémies qui surviennent dans les ceintures de la méningite.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on a ouvert un dossier assez important parce qu'on sait depuis 2 mois il y a des vaccins contre la méningite auprès de certains enfants. Nous allons prendre contact, prendre langue, comme on dit, avec le programme élargi de vaccination pour savoir pourquoi cette campagne-là maintenant, et qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des craintes et comment les mères peuvent bien observer les enfants, dont vous d'ailleurs, Nathalie, et toutes les autres mamans qui nous écoutent en vue des... faire en sorte que les enfants puissent éviter cela. C'était juste une entrée en matière pour mettre l'eau à la bouche et susciter les réactions des auditeurs qu'on attend au 081 890 68 90 ou bien par l'adresse email action@radiookapi.net. Nathalie Mouteba, merci beaucoup.
Merci à vous, Alker.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée. Okapi, active pour la paix.
Nous restons dans les questions de santé pour nous rendre à Kindu, en dépit de tous les efforts fournis par le personnel de santé et les différents partenaires du domaine, le paludisme continue à frapper fort au Maniema. Rien qu'à la quatrième semaine de cette année 2005, le Maniema a enregistré 3920 cas de palu, dont 8 décès, ce qui, du point de vue épidémiologique, est déjà alarmant. C'est ainsi que plusieurs recommandations sont faites au cours des différentes réunions du comité technique provincial de lutte contre le paludisme, notamment la dernière réunion qui s'est tenue le vendredi 28 janvier. À l'inspection provinciale de la santé, nous allons en parler avec Rigobert Yuma Ndouani. Rigobert, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour tout le monde.
Dites-nous, c'était quoi l'objectif de cette réunion qui s'est tenue vendredi dernier et quelles en ont été les recommandations, si vous voulez, les résultats?
Ah oui, avant de vous donner les recommandations, Walter, je tiens à vous dire que cette réunion a regroupé le médecin inspecteur provincial à l'intérim, le point focal de lutte contre le paludisme au Maniema. Les représentants des partenaires, je voudrais parler de Merlin, OMS, UNICEF et ASS, les médecins chefs de zone de santé, ainsi que les chefs de bureau épidémiologique et des soins de santé primaire. Pour revenir à l'objectif, c'était de définir le rôle de chaque intervenant dans la lutte contre le paludisme au niveau de la province, renforcer la synergie qui doit exister entre les différents intervenants, et faire des recommandations concrètes. Parce que vous avez demandé des recommandations, Walter, je vous laisse écouter le point focal du paludisme au Maniema, M. Jacques Bianga, qui nous donne justement ces recommandations.
Et nous voulons spécifiquement renforcer la prise en charge des cas dans les communautés et aussi dans les formations sanitaires dans notre province. Et nous voulons aussi assurer la prévention du paludisme dans la lutte antivectorielle, la chimioprophylaxie et les activités d'hygiène et assainissement des milieux. Et en plus, nous voulons renforcer la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire renforcer la notification, assurer les suivis et la supervision aussi des activités sur terrain. Au 4 blé, nous voulons aussi promouvoir la recherche, c'est-à-dire assurer les enquêtes épidémiologiques sur terrain. Et enfin, c'est notre devoir aussi de renforcer les partenariats durables, surtout entre nous, l'inspection et les partenaires sur terrain, pour que vraiment la lutte soit efficace et durable.
Voilà, on vient d'entendre cette réponse. Rigobert Yuma, je voudrais que vous puissiez baisser sensiblement le poste récepteur radio qui est à côté de vous, parce que lorsque vous nous répondez, il y a un doublon de voix et on risque même d'avoir des effets Larsen. Merci de le faire. Alors, la question que nous vous posons, c'est par rapport à ces recommandations, évidemment, elles ont été formulées. Ça veut dire que ça donne une impression que la situation n'a pas beaucoup changé. Eric Robert, est-ce que vous pouvez nous donner la situation du palu dans la province du Maniema?
Oui, Walter, à cette question, nous avons sollicité l'intervention de M. Martin Bilaoumari du 4e bureau épidémiologique à l'inspection de la santé au Maniema. Ce monsieur, pour bien répondre, a donné les situations comparées du paludisme des années 2003 et 2004. On l'écoute.
pour l'année 2003, et au courant de l'année, nous avons enregistré 251 000 cas, 589 et 390 décès. Au cours maintenant de l'année 2004, nous avons enregistré 234 139 cas et 486 décès.
Voilà, donc on comprend que alors qu'en 2004, il y a eu moins de cas enregistrés par rapport à l'année 2003, il y a paradoxalement plus de décès, 486 cas contre 390 en 2003. Quelle explication peut-on donner à cela et quelles sont les principales causes?
Walter, selon M. Bila, ces cas sont causés par notamment les mauvaises conditions de vie de la population, le manque d'hygiène et les conditions climatiques, surtout pendant cette période de la saison de pluie. Quant à la question de savoir pourquoi en 2004 il y a eu plus de décès qu'en 2003, M. Bila a stigmatisé le retard de fonctionnement des nouvelles zones de santé issues des découpages de 2004. On l'écoute.
L'année 2003, la province sanitaire du Maniema n'était pas découpée, elle était toujours répartie en 8 zones de santé. Mais au courant de l'année 2004, on a connu un nouveau découpage en 18 zones de santé. Et les nouvelles zones de santé ont commencé à notifier normalement à partir du mois de juin de l'année 2004. Ça peut se faire que la situation de la sous-notification pour certaines zones de santé pouvait avoir un impact sur les notifications que nous avons connues des cas et des décès.
Et voilà, c'est ce qui continuera à se faire. En tout cas, selon les recommandations qu'on a entendues avec le premier intervenant. Rigobert, peut-être pour finir, qu'est-ce qui a été fait jusque-là par rapport à la lutte contre le paludisme et quelles ont été les difficultés rencontrées sur le parcours?
Il y a plusieurs actions qui ont été faites, Walter, dont la distribution de moustiquaires imprégnés par l'ONG Merlin, par l'association Santé Familiale, l'ASF. Et il y a des sensibilisations sur les mesures d'assainissement. Et bien entendu, les soins, comme va vous le dire très bien le médecin chef de zone de santé, en ce qui concerne le paludisme dans sa zone de santé de la ville de Kindu. Quant aux difficultés rencontrées, je vous propose d'écouter le point focal de lutte contre le paludisme, M. Bianga.
Le programme de lutte contre le paludisme, tel qu'envisagé par le plan stratégique national de lutte contre le paludisme dans notre pays, n'est pas encore jusqu'à présent opérationnel. Bon, c'est un programme qui est intégré, mais actuellement n'est pas encore opérationnel. Nous ne pouvons que étendre les mains pour demander le financement au niveau des partenaires et même au niveau du gouvernement pour qu'on essaie quand même de financer les activités et essayer de descendre sur le terrain, mettre les histoires marche.
Voilà qui est bien dit. On en saura peut-être un peu plus sur les stratégies concrètes à faire ou à communiquer aux auditeurs, à ceux qui peuvent être frappés par la malaria. Et c'est évidemment tout le monde qui vit dans la zone intertropicale parce que le paludisme, c'est une maladie qui se développe principalement dans les régions tropicales. Rigobert Yumandouani Walumba, merci beaucoup de nous avoir fait le point avec tous ces intervenants. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet Okapi Action en direct de Kindu.
Merci beaucoup Walter, merci beaucoup tout le monde.
Okapi Action, nous allons nous quitter dans quelques instants, mais non sans avoir attendu le médecin chef de zone de santé de Kindu, Dr Omar Yumutingwa, bonjour.
Bonjour Walter.
Voilà, il y a ce problème de paludisme qui s'est posé en 2004, beaucoup plus de décès qu'en 2003. Qu'est-ce que vous allez faire pour que 2005 soit plus sûr et moins meurtrier en ce qui concerne le paludisme à Kindu?
Merci beaucoup Walter. Nous devons dire qu'au courant de l'année 2004, le paludisme dans la zone de santé de Kindu a constitué la première cause de morbidité avec 34,3% sur l'ensemble des malades ont été notifiés. Mm. Le taux de létalité est en moyenne de 5%, ce qui est bien énorme. Nous avons une moyenne de 5, mais ça varie entre 7 et 5%. Mm. Les causes, c'est que c'est souvent l'anémie qui est due au paludisme et la tranche d'âge de 0 à 5 ans qui est la plus touchée, étant donné qu'ils viennent un peu tardivement à l'hôpital et c'est la cause de l'anémie qui cause leur décès.
Mais pourquoi ils ne viennent pas directement à l'hôpital? C'est peut-être que les centres de santé sont assez loin d'eux ou que les frais des consultations sont chers, docteur.
Merci beaucoup Walter, mais je vais vous annoncer ici que les taux, les frais de consultation sont peut-être les plus bas au pays. Au centre de santé, c'est environ 130 francs. Mais nous sommes en train de voir les causes bien ailleurs. D'abord, c'est la notification des cas, la définition des cas qui n'est pas très bien assurée au niveau de la communauté. On devient donc faire des mesures de sensibilisation à travers nos relais communautaires pour pouvoir faire passer la définition du paludisme et sa prise en charge au niveau de la communauté, puis vers le centre de santé et en plus vers l'hôpital. Ici, là, nous allons rappeler la communauté que chez nous, toute fièvre accompagnée ou non de maux de tête, de douleurs lombaires, de fulsions, transpiration, myalgie, en première intention sur le paludisme, et la communauté devrait déjà prendre des dispositions qui s'imposent pour pouvoir consulter les services de santé.
Mais le problème, docteur, vous serez d'accord avec nous, c'est que quand ces symptômes que vous venez de mentionner se font manifester, on croit juste que c'est la malaria. Au lieu d'aller voir le médecin ou l'infirmier, on commence à se dire, on envoie l'enfant, ouais, de nous lier quinine, ouais, de nous lier tout ça, on recourt à la médication, à l'automédication, je veux dire.
Bien sûr, nous connaissons exactement le problème de l'automédication, ce qui est bien sûr à décourager. Assez souvent ici, les malades qui nous viennent avec un grand retard, c'est qu'ils sont passés par l'oncle paternel, par la tante qui a fait des gavages, qui a fait des potions. Et c'est quand ça devient plus grave que l'enfant est transféré en urgence dans le système de santé. C'est bien évidemment peut-être une des explications de notre taux de mortalité élevé.
Mais alors, ce qui va être fait, c'est que vos relais communautaires vont faire un grand travail de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ici que tout le monde à Kindu, en tout cas la grande majorité, aura accès à la bonne information sur le palu et aux soins de santé?
Oui, la grande majorité, je dirais, nous sommes une zone de santé qui est urbaine. Je sais vous confirmer ici que la grande majorité a l'information. Et les systèmes de soins, je vous l'ai dit tantôt qu'ils n'écoutent pas grand-chose. C'est un système de soins qui est subventionné. Nous avons des partenaires sur place qui essaient de faire de leur mieux pour pouvoir rendre ces soins accessibles à la communauté.
Voilà, docteur Omari Mutingwa, je rappelle que vous êtes médecin chef de zone de santé de Kindu. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à Kindu.
Bonne journée, Walter.
Okapi Action, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi le magazine et se réjouit de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa. Je suis Walter Monondi Mayrini. Tout le plaisir a été pour moi de vous retrouver. Je vous retrouve donc demain avec le même plaisir.